Jules Verne, un prêtre en 1839. Le sanctuaire semblait avoir été complètement oublié. Une seule cloche habitait cette vieille demeure. Longtemps, elle avait été la reine des cloches d'alentour. Longtemps, elle avait fait l'amour, la consolation, le charme de quelques vieux sacristains qui s'étaient balancés à ses sons du dimanche. Mais tout n'a qu'un temps. Et la vieille paroisse abandonnée avait été forcée d'imposer silence à sa vieille amie. Ainsi, tout passe. Les têtes sculptées qui s'avançaient dans l'intérieur du clocher regardaient tristement et languissamment la vieille habitante de la sonore habitation. Mais elle, tranquille, muette, malheureuse, ne regémissait plus que de temps à autre, et de sa voix fêlée et chevrotante ne soupirait plus que l'appel à quelque basse messe, à quelque pauvre enterrement. Et c'est à peine si le dimanche, elle osait élever sa voix cassée, frêle, grêle, aigre, au milieu des concerts étourdissants, tonnants et résonnants que formaient entre elles les cloches pimpantes, animées, aimées, choyées, fêlées des paroisses environnantes.
À cause de la vétusté de la construction, l'architecte a demandé que les cloches ne sonnent plus. Parce qu'avant, on les faisait sonner. Et puis, l'architecte qui s'occupe de la rénovation a demandé qu'elles soient arrêtées pour le clocher. Nous, pour moi, tout du moins, c'est la vie du village, les cloches. Hein. Fermée depuis 99, depuis la tempête. Ah. Elle a été fermée à ce moment-là et depuis, elle n'a jamais rouvert. Parce que l'architecte m'a dit là, le point de rupture, il va se produire un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais il va se produire un jour ou l'autre. L'église, elle va descendre et puis c'est fini, on n'en parle plus. Alors, c'est pas la peine. Surtout que c'est un monument qui est classé.
La cloche avait reçu une nouvelle impulsion, étonnait et brisait l'air. À cet instant, détachée de son support vermoulu et déchevillé, elle tombe avec un fracas horrible sur le sol du clocher. La vieille église en saute, ébranlée jusque dans ses fondements, déracinée jusque dans ses plus profondes assises. Le battant de la cloche, avec la rapidité d'un boulet de canon, perce son enveloppe d'ardoise et va briser le pavé de la rue, qui rejaillit à une hauteur prodigieuse. Dans l'église, la commotion est effrayante. Tout ressaute et retombe. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout se rue, se précipite, court, envahit la porte, s'empare d'échelles pour parvenir aux fenêtres. Ce n'est plus que confusion, désordre, chaos, bruit trépignant.
Thank you.
que je ne pourrai plus travailler, bon, je pense que ça va s'éteindre derrière moi. Bon, ça sera une maison particulière, et puis voilà quoi. Alors, bon, le plus tard possible serait le mieux, bien sûr. Mais les petits cafés de zone rurale disparaissent tellement un peu partout que c'est dommage, quoi, hein, malheureusement. Et c'est pour ça que bien souvent on dit « Oui, mais bon, moi je me rappelle, hein, le jour de la fête à Arvigny, hein, on mettait des tables du coin du machin, juste sur la pharmacie de l'autre côté, là, où il y avait un monde, il faut les voir, on commandait un camion de bière, de pinard, la fête elle durait 15 jours, mais ça y allait. » Oui, c'était 53, 65, mais ça c'est fini. Maintenant, t'as la marée chaussée qui est aux deux coins de la rue, qui fait souffler un petit rappel à l'ordre, bon, faut plus voir. Alors donc, fatalement, déjà là, il y a un coup de frein phénoménal. Et la consommation n'est plus la même qu'avant, hein, c'est pour dire la vérité. Alors, il n'y a pas que la peur des képis, mais bon, c'est un tout, hein, c'est un tout. C'est un peu comme le bistrot avant qui était un lieu de convivialité où toutes les couches sociales se retrouvaient pour jouer une petite partie de cartes à la sortie du boulot. Le notaire, le boucher, le maçon, tout le monde se mélangeait. Que maintenant, bon, la société s'est encore morcelée et donc ces gens-là se mélangent plus les uns les autres. C'est dommage parce qu'on perd toute la convivialité qu'il pouvait y avoir au sein d'un village. Hein,
Brabant-le-Roi, samedi 3 août 1968. Situation géographique en bordure de la départementale D75, à droite. Sortie est du village. État des lieux. Abandonné depuis 10 ans. Le moulin est dans un état difficile. Habiter le moulin, nous décidons de retaper la chambre à four plutôt que d'attaquer des travaux dans le moulin. Installation d'une porte vitrée à l'entrée. Isolation.
à Villotte devant Loupy, c'est un petit village par là. Il y avait un habitant qui s'appelait Alcide Bister, qui est devenu conseiller général du canton de Revigny. Et Alcide Bister, il a racheté le moulin qu'il y avait là. Il y avait un moulin où on broyait des coquins, c'était des nodules de phosphate de chaux. Alors les gens ont appelé ça des rognons de coque. Et des rognons de coque, c'est devenu coquin. On broyait ça, puis ensuite on expédiait ça vers l'ouest, puis dans le centre de la France, ça servait d'engrais. Et Bister, il avait donc racheté le moulin. Les wagons venaient chercher de coquins et venaient ici. Il y avait une voie ferrée qui passait là, un taco là. Donc il avait tout. Et puis ensuite, il expédiait par la voie ferrée, la grande voie ferrée. Et puis Bister, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé son moulin en entreprise de maçonnerie. Il faisait des tubes, des bus, du béton, etc. Et il s'est mis aussi à fabriquer des animaux en pierre reconstituée. Il a fait 2 vaches et il a fait 2 lions. C'est tout. Il a confié la chose à un artiste local qui était de Gremilly dans la Meuse. Il s'appelait Prosper Le Courtier. Prosper Le Courtier lui a fait les moules. Lui, il a coulé dans les moules, il a fait les bêtes. Et les vaches, comme il n'arrivait pas à les vendre, eh bien, il en avait une dans sa propriété, c'est celle-là, et une autre dans son village, à Villotte de Montloupy. Elle est au-dessus d'une fontaine, c'est magnifique. Bon. Et les lions, eh bien, ils étaient de part et d'autre d'une montée d'escalier, là. À la grosse maison qui fait le coin au bout de la rue, là. Il y a une espèce de château, là, c'est hein, bon, la grosse maison, là, parce que Bissière, elle a dû habiter, là. Voilà, c'est tout.
Il est d'étranges matins d'été à la campagne par lesquels le citadin de passage qui marche de bonne heure à travers champs reste frappé de surprise devant l'hypnose du monde vert et doré. Pas une fleur ne bouge, les arbres oublient de se balancer, l'herbe même semble avoir cessé de pousser. Et la nature tout entière, comme consciente soudain de son propre profond mystère et ne trouvant pour s'en garder que le silence, sombre dans cette paix indescriptible et merveilleuse. Herman Melville, Pierre ou les ambiguïtés.
Traverse les cours d'eau. Grâce à lui, nous avons de l'eau. Grâce à lui, nous avons construit ce pont. Grâce à lui, nous avons des poissons. Grâce à lui, nous avons des cascades et des mini-cascades. Le gravier et son lit, chaque jour, il nous illumine. Sur son lit, j'ai les rayons de mille.
J'ai aidé en travaillant, mais 36 métiers, 36 misères, ma vie, elle était complète. Dès 18 ans, j'ai fait des lessives avec maman, par tous les temps. Et bien, ma foi, on allait au lavoir. Et puis, à cette époque-là, mais tenez-vous bien, tout le monde venait au lavoir. Tout le monde, avant. Moi, je vous dis, en l'espace de 70 ans, j'en ai connu des personnes, des vieilles, des jeunes et compagnie, hein. Eh bien, tout le monde venait au lavoir. Il y avait même une vieille personne qui approchait les 100 ans, c'était Madame Dourin. Elle habitait la petite maison à côté du lavoir. Et tous les jours, ma brave petite vieille, qui était déjà âgée à cette époque, elle venait avec son seau dans le Yachman, qui venait laver sa blouse, son torchon, son tablier, enfin ce qu'elle avait à laver, puis elle repartait. Comme Madame Bleue. Tous les matins, tenez-vous bien, elle venait laver, après avoir lavé sa cuisine et puis son couloir, elle venait rincer et puis laver sa blouse ou ce qu'elle avait à laver au lavoir. Et en dernier, la brave femme, elle me faisait tellement mal que je lui ramenais son seau parce qu'elle marchait plié en deux. Et tous les jours, elle venait au lavoir. Tous les jours et tous les jours. Que Dieu fasse. Moi, je n'ai pas honte de dire. Je ne dis pas qu'on a fait la lessive chez tout le monde, vraiment, parce que ça serait menti. Mais un bon tiers des personnes. Il fallait gagner sa croûte. Il fallait manger, on n'avait rien. On avait que nous-mêmes pour travailler.
Thank you. côte de Lyon.
No.
suis arrivé au collège, on a eu pendant un temps, les troisièmes pouvaient participer à du porte-drapeau. Et en gros, ils venaient pour le 11 novembre et ils étaient à côté d'un vrai porte-drapeau qui était officiel, etc. Et donc du coup, on était un petit peu à leur place et c'était bien. Et moi, je voyais les troisièmes faire ça, j'avais toujours envie de le faire. Je voyais ces gens, j'avais vraiment très envie de le faire, sauf que j'étais pas en classe. Et donc du coup, j'ai été avec ma maman, on a été voir l'association si c'était pas possible que je fasse quelque chose. Et donc du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Soma. Et donc c'est de lui que j'ai le drapeau aujourd'hui. J'ai fait les premières manifestations avec lui. Donc avant, j'avais juste la main sur le drapeau, ensuite il me l'a donné, il était toujours derrière moi. Et puis de plus en plus, il a fini par me le confier. Et puis là, très récemment, la dernière cérémonie, du 14 juillet, j'ai reçu le drapeau officiellement. Voilà, et j'en suis très fier. Cette passion pour l'histoire, elle a été de plus en plus grandissante. Quand je suis arrivé au collège, etc., que j'ai commencé à découvrir les programmes, etc., c'est une matière où plus j'apprenais, plus j'avais envie de comprendre, en fait. Enfin, c'est un peu inexplicable, c'est vraiment une passion, c'est juste, j'aime, j'ai envie de comprendre, de connaître encore plus. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste quelque chose qui touche mon cœur.
La contre-terreur, c'est ce vallon que peu à peu le brouillard comble. C'est le fugace bruissement des feuilles comme un essaim de fusée engourdie. C'est cette pesanteur bien répartie. C'est cette circulation ouatée d'animaux et d'insectes tirant mille traits sur l'écorce tendre de la nuit. C'est cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé. C'est cet incendie de la lune qui ne sera jamais un incendie. C'est un lendemain minuscule dont les intentions nous sont inconnues. C'est un buste aux couleurs vives qui s'est plié en souriant. C'est l'ombre, à quelques pas, d'un bref compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder. Qu'importe alors l'heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous. René Char, feuillet d'hypnose.